Isabelle Fontaine, bon début de journée.
Bon matin, Steve.
On pourrait faire toute une autre chronique sur le Centre Mère-Enfant, mais il arrivera.
J'imagine qu'il arrivera, mais tu sais, on en avait parlé cet automne du Centre Mère-Enfant, de cette attente de hausse de coûts importante. Martin parle de l'acier. Il y a aussi la question de la situation économique qui est très bonne, de la construction qui roule à plein régime. Donc, évidemment, tout ça a de l'influence sur les coûts.
Bien, comme entrepreneur, quand tu as le choix, choisis tes projets.
Et la pénurie de main-d'œuvre aussi.
Parlant de dossiers, mais là, cette fois, c'est des retards de dossiers, oui. 18 000 dossiers d'immigration non traités, retard colossal, espèce de travail pratiquement insurmontable à faire.
C'est incroyable, puis c'est une sortie vraiment bien orchestrée du ministre Jeanlin Barrette hier pour nous annoncer qu'il a découvert 18 000 dossiers non traités dans le programme régulier de travailleurs qualifiés qui sont en attente, donc ils n'ont pas été ouverts. C'est un travail colossal au ministère de l'Éducation, de l'Immigration qui a à faire. Ça, ce sont des immigrants avec des qualifications professionnelles particulières qui ont fait des demandes à partir de leur pays d'origine, donc qui attendent dans leur pays d'origine, dans une situation qui n'est probablement pas précaire, qui ont un intérêt pour le Québec, qui ont choisi de déposer une demande au Québec, pas au Canada, au Québec, de passer par le système québécois, qui ont payé des frais importants jusqu'à 1 000 pour soumettre leur demande, mais dont on ne sait rien. On a très peu d'informations sur ces gens-là, quelles sont leurs qualifications réelles, quel âge ils ont, c'est quoi leur intérêt de venir ici, tout ça, on ne sait rien. Au rythme actuel, le ministre évaluait à 2 ans et demi le temps que ça devrait prendre pour traiter tous ces dossiers. Mais la vraie question derrière ça, c'est pourquoi cette sortie volontaire du ministre pour nous dire que ces dossiers-là ne sont pas traités?
C'est pas un journaliste qui a mis la main là-dessus et qui en a sorti une nouvelle. Là.
Pas du tout. C'est lui, puis il a fait la tournée des médias pour expliquer la situation. Puis il n'y avait pas de solution à proposer. Il faisait juste présenter les faits, exposer le problème. Mais le ministre Jeanlin Barrette est pris dans ce dilemme où il doit s'engager à en prendre moins, mais en prendre soin. Hein, l'engagement de la CAQ pendant la campagne électorale de diminuer les seuils d'immigration. En même temps, la pression très forte des milieux économiques pour augmenter l'immigration, pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Et là, 18 000 demandes de travailleurs qualifiés non traités, ça vient comme changer la donne un peu, tu sais, parce que tous ces gens-là sont des travailleurs potentiels pour aller dans les entreprises. Ça m'amène à faire un lien avec une annonce du ministre du Travail la semaine dernière, Jean Boulay, qui annonçait une grande corvée dans son ministère de l'Emploi. Ça a un peu passé sous le radar, mais c'est vraiment un changement total de paradigme. Alors que le ministère de l'Emploi s'occupe habituellement des travailleurs sans emploi pour les requalifier, les repositionner, les aider à trouver des emplois, là, lui, il change complètement, il tourne complètement le spectre de côté. Et son ministère va plutôt travailler avec les entreprises, donc appeler toutes les entreprises au Québec pour voir où sont les emplois qui ne sont pas comblés, c'est quoi l'état de la pénurie de main-d'œuvre dans les entreprises, combien d'emplois, quel type d'emploi ils ont besoin.
Donc, c'est l'effet inverse. Au lieu d'aider le travailleur à se trouver une job, on va aider l'entreprise à se trouver un travailleur.
À se trouver des travailleurs. Okay. T'sais, parce qu'évidemment, aider des travailleurs à se trouver une job en situation de plein emploi, tu devais manquer un peu de patience. Fait que là, tu mets ces deux choses-là ensemble, hein? 2 ans et demi pour traiter 18 000 dossiers d'immigration qui sont déjà déposés. Mmh. En même temps, pendant un certain nombre de mois, 600 fonctionnaires au ministère de l'Emploi qui vont contacter toutes les entreprises pour connaître l'état de situation, faire un arrimage de ça. Hein, là, tout d'un coup, tu te dis, bon, ben, on va combler des besoins de main-d'œuvre avec des immigrants qui ont un intérêt pour le Québec.
À venir travailler.
Rendu là, ton seuil d'immigration diminué de façon temporaire.
Ça ne changera pas grand-chose.
Peut-être qu'il va simplement disparaître.
Bref, ils se sont donné des munitions. Là. C'est ce que je comprends. C'est de dire, voyez, on a raison, on a des dossiers en attente, on pourrait peut-être en prendre moins, on va passer au travers de ces dossiers-là puis on se reparle après.
Exactement. Okay. Puis on va passer au travers de ces dossiers-là, mais aussi on va bien comprendre la situation de la pénurie de main-d'œuvre. Mmh. Puis moi, je pense que dans toute la question d'intégration des immigrants, ces travailleurs qualifiés qui ont fait le choix du Québec, qui sont dans une situation où ils veulent venir ici. Ils ont déposé leur demande au gouvernement du Québec.
Prendre. On s'entend,
ben,
là.
Il me semble. Puis toutes les questions d'intégration sont probablement beaucoup plus simples à aborder.
Ils savent à quoi s'attendre.
Exactement.
On a peut-être un meilleur casting. Le Québec, toujours le mal-aimé du Canada, il y a un sondage de la firme Angus Reid qui a demandé à 4 000 répondants. Ça s'est passé en ligne, je tiens à le préciser quand même, parce que des fois, il faut faut pas prendre ça comme pour du cash non plus nécessairement.
Des fois, quand on a une opinion ferme, on est plus engagé à répondre à des questions en ligne.
Exact. Mais on montrait le Québec du doigt. 83 % des Albertains pensent que le Québec empoche plus qu'il ne rapporte. 73 % des gens de la Saskatchewan, 62 % des Manitobains, 60 % des Britanno-Colombiens, 59 % des Ontarios et des résidents des Maritimes, pensent que on prend plus de cash qu'on en amène à la Fédération canadienne.
Ouais, évidemment, tu le dis, c'est un sondage en ligne, puis tu sais, les questions étaient quand même un peu
peut-être tendancieuses,
étaient particulières, mais en même temps, le Québec mange la claque, tu sais, tu l'as dit, plus que 60 % des gens de toutes les autres provinces pensent que le Québec empoche plus qu'il ne rapporte au Canada. En Alberta, c'est 83 % la province de qui on a le plus, avec laquelle on a le plus d'affinité ou d'amitié, le meilleur score que le Québec a, c'est 12 % des Ontariens. On est en dessous de 12 % partout ailleurs au Canada en termes de proximité ou d'amitié. Puis la province dont on est le moins proche ou par rapport à laquelle on est hostile, on score à plus de 55 % partout au Canada. Fait que tu sais, on sent cette faille, ce fossé immense qui continue de se creuser entre le Québec et le reste du Canada. Évidemment, ça, c'est sûr que c'est le résultat de nombreuses années de débats constitutionnels, mais c'est aussi le résultat des années récentes de débats sur le transport du pétrole, sur l'énergie et les pipelines. Et aussi les roches que les élus se tirent publiquement. T'sais, on se rappellera dans le cas d'Énergie Est, quand Denis Coderre avait eu avec Brad Wall, le premier ministre de la Saskatchewan, ou du Manitoba, je ne suis pas sûre, avait eu un échange très véhément sur Twitter. Et là, dans les derniers jours, Brian Pallister qui sort et qui dénonce de façon préventive d'éventuelles concessions du gouvernement Trudeau aux nombreuses demandes du Québec. Donc, Saskatchewan, deux fois la Saskatchewan, voilà. Merci. Ce fossé-là est immense, puis en même temps, les enjeux sont grands. T'sais. On a les changements climatiques auxquels il faut faire face collectivement. On a toute la question du commerce extérieur puis des exportations. T'sais, là, nos relations commerciales avec les États-Unis sont chambranlantes. On a parlé d'acier tantôt. On a réussi à renégocier l'ALENA, mais en même temps, tant que Trump va être là, ça va être difficile. Nos relations commerciales avec la Chine, nos relations diplomatiques mises à mal avec la Chine ont des impacts commerciaux.
Tout à fait.
Le cirque du soleil ce matin.
On dit pas que c'est ça, mais il y a peut-être un lien à faire. T'sais, moi, je pense personnellement qu'il n'y a pas d'hasard, là.
Il y a assurément un lien à faire, puis plusieurs entreprises l'ont dit que depuis que cette crise diplomatique le court, les relations commerciales en Chine sont plus compliquées. Il faut que les échanges entre les provinces soient plus forts, puis il faut que le Canada regarde cette question-là d'une façon concertée. Puis, en plus, les élections fédérales s'en viennent. Fait que pour un parti qui veut avoir une majorité à travers le Canada, travailler dans le cadre d'un fossé aussi important entre les provinces, c'est un défi...
Isabelle Fontaine, es-tu en train de nous dire qu'il faudrait que le Canada agisse comme un pays?
Ben en fait, je suis au moins en train de te dire que l'unité nationale, on n'est pas rendu là.
Merci beaucoup, Isa. On se reparle la semaine prochaine. Merci.
À lundi.